السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں
Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Ammar bin Yasir, qu'Allah soit content de lui. J'évoquerai aujourd'hui d'autres récits à son propos. Hassan radhiyallahu anhu a déclaré que Amr bin al-As a relaté « J'ai l'espoir que la personne que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait jusqu'au moment de sa mort n'ira pas en enfer. » Les gens ont commenté « Nous avions constaté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui t'aimait et il t'avait nommé gouverneur. » Amr bin al-As a répondu, « Allah seul sait si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui m'aimait ou s'il souhaitait uniquement gagner mon cœur. Cependant, j'ai vu qu'il aimait une personne. » Les autres ont demandé, « Qui est-ce ?» Amr bin al-As a répondu, « Il s'agit d'Amr bin Yasir. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours exprimé son amour à son égard. Les gens ont demandé, « Mais c'est bien vous qui l'avez tué lors de la bataille de Siffin. » Amr bin al-As soutenait à l'époque l'amir Muawiya. Amr bin al-As a répondu, « Je jure par Dieu, nous l'avons certainement tué. » Selon un autre récit, Amr bin al-As disait, « Je témoigne à propos de deux personnes que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait jusqu'au moment de sa mort. Le premier était Abdullah bin Mas'ud et le deuxième était Ammar bin Yasir. » Le père d'Abu Bakr bin Mohammed bin Amr bin Hazm relate ceci. Quand Ammar bin Yasir est tombé en martyr, Amr bin Hazm est parti rencontrer Ammar bin al-As et lui a dit, « Ammar bin Yasir est tombé en martyr. » Et j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer que les rebelles le tueront. Amr bin al-As, tout terrifié, est parti voir Muawiya. Muawiya lui a demandé si tout allait bien. Amr bin al-As l'a informé que Ammar bin Yasir est tombé en martyr. Muawiya a commenté, « Eh bien, où se trouve le problème ?» Amr bin al-As a répondu, « J'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer que les rebelles le tueront. » Mu'awiya a commenté, est-ce nous qui l'avons tué? C'est Ali et ses compagnons qui l'ont incité à se battre contre nous. Ils l'ont placé devant nos lancers ou devant nos épées. En tout cas, Amr bin al-As était vertueux, d'où ses soucis. Or, Mu'awiya, quant à lui, n'avait pas accordé d'importance à cet incident. Les compagnons étaient très troublés lorsqu'ils entendaient directement ou de la bouche d'un autre un avertissement émis par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou une bonne nouvelle qu'il avait donnée. Aïcha radhiyallahu anha déclare qu'Amr bin Yasir était empli de foi de la tête jusqu'aux pieds. Khabab s'était présenté au calife Omar, qui lui a demandé de se rapprocher de lui, car personne d'autre hormis lui méritait d'être assis à côté de lui, sauf Amr bin Yasir. Khabab a montré au calife Omar sur son dos les blessures que lui avaient infligées les polythéistes. Le calife Omar l'avait honoré en raison des souffrances qu'il avait subies au début de l'histoire de l'islam. Et il a ajouté qu'Amr bin Yasir avait lui aussi été âprement persécuté. Il y a un récit d'Amr bin Yasir à propos du martyr d'Ali et sur la prophétie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, faite à ce propos. Amr bin Yasir relate qu'il avait accompagné Ali lors d'une bataille. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi son camp et nous avons vu quelques membres de la tribu Banu Mutlij qui étaient en train de travailler sur les sources d'eau de leur jardin. Ali m'a demandé de l'accompagner, voir comment ils travaillaient. Ainsi, nous les avons regardés pendant quelque temps. Ensuite, nous nous sommes allongés sur le sol d'un jardin pour dormir. Je jure par Allah que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne qui nous a réveillés. Il nous remuait avec ses pieds et nous étions couverts de terre. Ce jour-là, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Ali, « Ô toi qui es couvert de poussière, ô toi qui es couvert de poussière, veux-tu que je t'informe à propos des deux plus grands infortunés ?» Nous avons répondu, « Certainement oui, ô envoyé d'Allah. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le premier est celui de la tribu de Thamoud qui avait coupé le jarret de la chamelle. Le deuxième est celui qui s'attaquera à toi, Ali, et qui ensanglantera ta barbe. Abu Majlis relate qu'une fois, la prière d'Amr bin Yasir fut très courte. Quelqu'un lui en demanda la raison. Amr bin Yasir répondit, « Ma salat n'était en aucun cas différente de celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Abu Majlis relate que les fidèles étaient étonnés de la brièveté de la salat qu'avait dirigée Amr. Amr a demandé, « Est-ce que je n'ai pas accompli les rukous et les prosternations ?» Les fidèles ont répondu, « Certainement. » Et Amr a ajouté, « J'ai récité la supplication que faisait le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Cette prière se dit ainsi, « Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalqi. Ahyini ma alimta al-hayata khayran li. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء وقصد في الفقر والغناء ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين C'est-à-dire, oh Allah, par ta connaissance de l'invisible et ta puissance sur la création, maintiens-moi en vie tant que selon toi ma vie sur terre est bonne pour moi et donne-moi la mort quand tu sais que la mort est meilleure pour moi. Oh Allah, inspire en moi la crainte en secret, en public, fais que j'énonce des paroles vraies dans les moments de plaisir et de colère. Je te demande de me rendre modéré en période de richesse et de pauvreté. Accorde-moi le délice qu'inspire ton visage et le souhait de te rencontrer. J'implore ta protection contre tout mal et contre toute malveillance qui égare. Ô Allah, embellis-nous par l'ornement de la foi et fais que nous soyons parmi ceux qui guident ceux qui sont guidés. Selon les récits, tous les vendredis, Amar bin Yasir récitait la sourate Yassine du haut de sa chair. Harith bin Suhail relate qu'une personne a médit au sujet d'Amar bin Yasir auprès du calife Omar. Quand Amar en a eu connaissance, il a levé les mains en l'air pour prier en ces termes, « Oh Allah, si cette personne a menti à mon sujet, accorde-lui de l'aisance ici-bas et règle-lui son compte dans l'au-delà. » Abu Nawfal bin Abi Aqrab relate qu'Amar bin Yasir était le plus circonspect des hommes. Il avait l'habitude de prier en ces termes, « Je demande la protection d'Allah contre toute malveillance. Je demande la protection d'Allah contre toute malveillance. » Haythama bin Abi Subra relate ceci. « Quand je suis venu à Médine, j'ai prié qu'Allah fasse que je partage la compagnie d'une sainte personne. C'est ainsi qu'Allah m'a fait rencontrer Abu Huraira, radiallahu anhu. Il m'a demandé d'où j'étais originaire. Je lui ai dit que je viens de Koufa et que je suis en quête du savoir et du bien. Abu Huraira, radiallahu anhu, m'a posé cette question. Les personnes suivantes ne vivent-elles pas dans ta région? Sa'ad bin Abi Waqqas, dont les prières sont exaucées, Abdullah bin Mas'ud, qui portait les chaussures et l'eau du Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui, Huzaifa bin Yaman, le confident du Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui, Amar bin Yasir, à propos de qui l'envoyé d'Allah a déclaré qu'Allah l'a protégé de Satan, et Salman, celui qui détient le savoir de l'Évangile et du Saint-Coran. Toutes ces personnes ne vivent-elles pas dans ta région? Étant donné que ces illustres personnalités résident dans la région du visiteur, pourquoi n'a-t-il pas profité de leur compagnie? Mohammed bin Ali Hanafiya relate qu'Amar bin Yasir s'était présenté au Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui pendant que ce dernier était malade. Le Saint-Prophète Mohammed lui a dit, « Veux-tu que je t'enseigne l'incantation que l'ange Gabriel m'a apprise ?» Amar a répondu à l'affirmative. Et le Saint-Prophète Mohammed lui a récité la prière suivante. « Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yudhika. » Je débute cette incantation avec le nom d'Allah. Qu'Allah t'accorde la guérison contre toute maladie qui t'afflige. Récite cette prière et sois content. Anas relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Le paradis souhaite ardemment recevoir Ali, Ammar, Salman et Bilal. Qu'Allah soit content d'eux. » Huzaifa radhiyallahu anhu qalat, nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed bissar soit lui quand il a déclaré: j'ignore pour combien de temps encore je serai parmi vous. Après moi, suivez Abu Bakr et Omar et adoptez la voie d'Ammar et attestez en faveur de l'engagement pris par Ibn Masoud. La semaine dernière, j'ai relaté qu'Ammar bin Yasir a été victime de la ruse des rebelles quand le calife Othman l'avait envoyé enquêter sur le gouverneur de l'Égypte. Ammar est parti rencontrer les rebelles et il n'avait pas complété son enquête. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya déclare à propos de cet incident: le manque d'éducation morale et spirituelle des rebelles était la cause de la révolte contre Othman et le califat. Ces rebelles visitaient rarement le centre de l'islam et ils n'avaient pas une grande connaissance du Saint-Coran et ils n'avaient pas une grande connaissance de la religion. En tant que membre de la Jamaat, la leçon à tirer est que vous devez accroître votre connaissance du Saint-Coran et vous devez être en contact avec le centre et accroître votre connaissance religieuse. Ce faisant, vous serez sauf si jamais l'on fomente des troubles au sein de la Jamaat. Certes, tout le monde ne peut visiter le centre, tout le monde ne peut établir un lien personnel avec le calife. Or, l'on doit accroître sa connaissance religieuse et l'on doit accroître sa connaissance du Saint-Coran. Cet effort est à la disposition de tout le monde. Et aujourd'hui, Allah nous a accordé la MTA grâce à laquelle nous pouvons accroître notre connaissance de la foi. Nous pouvons accroître notre connaissance de la foi grâce à la MTA. L'on y diffuse des commentaires du Saint-Coran, des commentaires sur les hadiths, les ouvrages du Messie promis l'Islam, différents sermons ou discours du calife. Ainsi, l'on peut établir un lien avec le calife grâce à ses sermons et ses discours. Si nous nous lions ainsi que nos générations futures à ces sources de connaissances, ce sera là un très grand moyen pour effectuer notre réforme morale et spirituelle et pour éviter toute forme de trouble. Par ce moyen, nous allons aussi accroître notre connaissance religieuse. Les membres de la Jamaat doivent être vigilants à cet égard et s'attacher à la MTA, qu'Allah leur a accordée comme faveur. Abu Lubaba bin Abdul Munzir était un autre compagnon du saint prophète Mohammed Bissa sur lui. Il existe des divergences à propos de son nom. Certains disent qu'il s'appelait Bashir, et selon Ibn Ishaq, il se nommait Rafa'a. Selon Alama Zamakhshari, il s'appelait Marwan. En tout cas, il appartenait à la tribu Aws des Ansar et il faisait partie des 12 chefs et il était présent au serment d'allégeance à Uqba. En partance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Abdullah bin Ummi Maktoum chef de Médine. Mais quand le saint prophète Mohammed est arrivé au lieu dit Rawha, un lieu situé à environ 58 km de Médine, eh bien, il a renvoyé Abu Lubaba pour remplacer Abdullah bin Umm Maktoum. Abdullah bin Umm Maktoum était aveugle et l'arrivée de l'armée Qurayshite exigeait une administration efficace. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui a envoyé Abu Lubaba et il l'a nommé amir de Médine. Il a dit qu'Abdullah bin Umm Maktoum officiera en tant qu'imam, mais qu'Abu Lubaba sera quant à lui responsable de l'administration. C'est ainsi qu'Abu Lubaba est retourné à Médine à mi-chemin. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui avait réservé sa part du butin. Importance pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed bin Sassoua Ali et Abu Lubaba partageaient tous les trois la même monture. Ali et Abu Lubaba ont insisté qu'ils marcheraient et qu'il laisserait la monture au saint prophète Mohammed bin Sassoua lui. Mais le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui a rejeté la proposition. Tout souriant, il a dit, « Vous n'êtes pas plus robuste que moi pour la marche, et j'aspire comme vous aux récompenses. » Après la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui a envoyé Zayd bin Harith donner la bonne nouvelle de la victoire aux habitants de Médine. Zayd bin Harith a voyagé sur la chamelle du saint prophète Mohammed bin Sassoua lui. Quand il est arrivé au lieu dit de la Sola, il a annoncé du haut de la chamelle. Il a annoncé Utba et Shayba, les deux fils de Rabia, Abu Jahal et Abu al-Bakhtari, les deux fils de Hajjaj, Zama bin al-Aswad et Umayya bin Khalf ont tous été tués. Toutes ces personnes ont été tuées, a annoncé Zayd du haut de la chamelle du saint prophète. Il a ajouté, Suhail bin Amr et bien d'autres ont été faits prisonniers. Les hypocrites et les ennemis ne croyaient pas ces paroles, et ils disaient qu'il était retourné vaincu et qu'il était terrifié. Leurs propos avaient irrité les musulmans. Un des hypocrites a dit à Zayd, « Ton maître et ceux qui l'ont accompagné ont tous été tués. » Un autre a dit à Abu Lubaba, tes compagnons se sont dispersés et jamais ils vont s'unir de nouveau. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses grands compagnons ont tous été tués, a dit cet hypocrite. Voilà sa chamelle, nous la connaissons. Zayd est tout terrifié, il ignore ce qu'il est en train de dire. Il les retournait tout déconfit du champ de bataille. Voilà ce qu'a déclaré cet adversaire de l'islam. Abu Lubaba a répondu, « Allah démentira tes balivernes. » Les Juifs disaient aussi que Zayd retournait après la défaite des musulmans. Oussama bin Zayd relate, j'ai pris mon père en aparté et je lui ai demandé s'il disait vrai. Zayd a répondu, je jure par Dieu, mon fils, que je dis la vérité. Oussama relate que son cœur s'est raffermi après avoir entendu la réponse de son père. Voici un récit sur la simplicité d'Abu Lubaba et de sa fidélité à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 5 de l'Hijr, le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui est retourné de la bataille du fossé. Il avait à peine déposé ses armes et s'être lavé quand il a reçu dans un message divin, dans une vision, qu'il ne doit point mettre de côté ses armes tant qu'il n'avait pas pris de décision concernant la traîtrise et la rébellion des Banu Qurayza. Le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui a demandé à ses compagnons de partir dans la direction de la forteresse de cette tribu et qu'ils accompliront la prière d'Asr en ces lieux. Au début, les Juifs ont fait montre d'une grande arrogance et d'une grande insolence. Or, quand le siège de la forteresse s'est rallongé, et qu'ils ont compris la précarité de leur situation, ils ont tenu conseil sur la marche à suivre. Et ils se sont dit qu'ils pourront tromper un musulman naïf qui est en relation avec eux et qu'ils vont l'inviter dans leur forteresse. Ils tenteront de connaître à travers ce musulman l'intention du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à leur propos. Ainsi, ils pourront prendre les mesures appropriées en conséquence. Ainsi, les Juifs ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui de leur envoyer Abu Lubaba, de l'envoyer comme émissaire afin qu'il puisse lui demander conseil. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donc permis à Abu Lubaba d'entrer dans la forteresse juive. Les chefs juifs ont décidé que leurs femmes et leurs enfants vont entourer Abu Lubaba dès qu'il entrera dans la forteresse et que les femmes et les enfants se mettront à pleurer, à se lamenter, et ils tenteront d'émouvoir Abu Lubaba par leur tristesse. La ruse a eu de l'effet sur Abu Lubaba et les Juifs lui ont dit « Tu constates très bien notre détresse. Crois-tu que nous pourrons sortir de notre forteresse en accord à la décision du saint prophète Mohammed paix soit sur lui ?» Abu Lubaba a répondu instantanément qu'il pouvait sortir. Mais de sa main, Abu Lubaba a mimé sa décapitation, voulant ainsi indiquer que le saint prophète, paix soit sur lui, ordonnera leur exécution. Abu Lubaba commente qu'il s'est rendu compte d'avoir trahi la confiance de Dieu et de son envoyé en faisant le signe de l'exécution. Ayant pris conscience de son erreur, ses pieds tremblaient. Et comme punition auto-imposée, il est parti se ligoter à un pilier de la mosquée du saint prophète, en disant que c'était cela sa punition et qu'il ne va pas se délier tant qu'Allah n'avait pas accepté son repentir. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a eu connaissance de l'action d'Abu Lubaba dans la forteresse juive, le saint prophète a demandé qu'on le laisse jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict à son sujet. Le saint prophète a déclaré « S'il était venu me voir, j'aurais imploré le pardon divin à son propos. Laissez-le, étant donné qu'il est parti sans rien demander », a commenté le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abu Lubaba relate « Je suis resté dans cette épreuve pendant 15 jours. J'avais vu un rêve dans le passé et je me suis souvenu de ce songe par la suite. Dans ce rêve, j'ai vu que nous avions assiégé la forteresse des Banu Qurayza et que j'étais dans une boue nauséabonde dans laquelle je ne pouvais m'extirper. J'étais sur le point de mourir dans cet état quand j'ai vu une rivière dans laquelle je me suis lavé entièrement. Par la suite, j'ai senti du parfum et je me suis purifié. J'ai demandé à Abu Bakr l'interprétation de ce songe. Il m'a dit que je serai pris dans une affaire qui m'attristera et que je m'en sortirai par la suite. Quand je suis devenu vieux, je me suis souvenu de la parole d'Abu Bakr et j'ai eu l'espoir que mon repentir sera agréé par Dieu. Umm Salma, l'épouse du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, relate la révélation qu'avait reçue le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sur l'acceptation du repentir d'Abu Lubaba. Cette révélation est descendue dans ma maison. À l'aube, j'ai vu que le saint prophète paix soit sur lui était en train de rire. Je lui ai dit qu'à la face que vous soyez toujours souriant, pourquoi êtes-vous en train de rire, ô envoyé d'Allah? Il a répondu, Dieu a accepté le repentir d'Abu Lubaba. J'ai demandé au envoyé d'Allah, pourrais-je l'en informer? Si tu le souhaites, m'a dit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cet incident date d'avant l'injonction sur le port du voile. Et Umm Salma déclare que je me suis mise à la porte de ma chambre jouxtant la mosquée et j'ai annoncé « Abu Lubaba, sois content, Allah l'exalté t'a accordé sa grâce, il a accepté ton repentir. » D'aucuns ont couru dans sa direction afin de le délier, mais Abu Lubaba a insisté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui le fasse de ses mains. Le saint prophète est parti pour la prière de Fajr et l'a libéré de ses mains bénies. Abu Lubaba raconte ceci. J'ai dit au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étant donné la gravité de l'erreur que j'ai commise, je vais abandonner ma maison. J'offre mes biens en aumône dans la voie d'Allah et de son prophète. Le saint prophète m'a enjoint d'offrir un tiers de mes biens uniquement en aumône. Je lui obéis et j'ai abandonné ma maison natale. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a commenté à propos de cet incident. Il déclare « Le cas des Banu Qurayza n'était pas encore résolu. La traîtrise n'était pas une action qu'on pouvait oublier. Dès que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est retourné à Médine, il a demandé à ses compagnons de ne pas se reposer, mais de se rendre avant la soirée jusqu'à la forteresse des Banu Qurayza. Et il leur a envoyé Ali pour leur demander la raison du non-respect de leur engagement et de leur traîtrise et de leur départ. Au lieu d'exprimer du remords ou de demander pardon, les Banu Qurayza ont insulté Ali, ils ont insulté ses compagnons, ils ont insulté même le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ainsi que ses épouses bénies. Ils ont dit, nous ignorons qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et nous n'avons signé aucun pacte avec lui. Ali retournait avec la réponse quand il a rencontré en cours de route le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète qui venait à la direction de la forteresse avec ses compagnons. Ali n'a pas voulu que le saint prophète, paix soit lui, entende les insultes que les juifs proféraient contre sa personne, ses femmes et ses filles. Il a dit au saint prophète, paix soit lui, « Pourquoi vous vous êtes déplacé? Nous suffisons pour mener la bataille. Vous pouvez rentrer sans crainte. » Le saint prophète a déclaré, « Je sais qu'ils sont en train de m'insulter et que tu ne souhaites pas que j'entende leurs insultes. » Ali a confirmé ses propos. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ajouté, « Pourquoi s'inquiéter s'ils m'insultent? Moïse appartenait à leur peuple et ils l'ont tourmenté davantage. » Il s'est avancé dans la direction de la forteresse, mais les Juifs ont maintenu fermée la porte de leur forteresse et ils ont commencé à livrer bataille contre les musulmans. Même leurs femmes se sont jointes à la bataille. Des musulmans étaient assis sous un des murs de la forteresse quand une juive a lancé une pierre d'en haut, tuant un musulman. Après un siège de quelques jours, les Juifs ont compris que la lutte ne pouvait pas durer plus longtemps. C'est là que leurs chefs ont demandé au saint prophète de leur envoyer Abu Lubaba, chef de la tribu Aws, qui était aussi leur ami. Il voulait le rencontrer afin de lui demander conseil. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a accepté leur requête et les Juifs ont demandé à Abu Lubaba s'ils devaient jeter leurs armes, tout comme le saint prophète paix soit sur lui leur exigeait de le faire. Abu Lubaba a dit qu'il devait le faire, mais il a mimé de la main sa décapitation. Or, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait pas encore pris de décision jusqu'à ce moment concernant les Juifs. Abu Lubaba croyait quant à lui que la mort était le seul châtiment qu'il méritait en raison de leur crime, et il a fait ce signe de la main sans réfléchir. Ceci a été la cause de leur destruction. Ainsi, les Juifs ont rejeté la main de la réconciliation que leur tendait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils avaient accepté son verdict, tout au plus, ils auraient été expulsés de Médine comme les autres tribus juives. Or, dans leur malheur, ils ont refusé le verdict du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et ils ont dit qu'ils accepteraient uniquement la décision de Sa'd bin Mu'az, qui était leur allié et le chef de la tribu Aws. Ils ont insisté qu'ils vont accepter uniquement la décision de Sa'd bin Mu'az. Mais un différend a éclaté parmi les Juifs. Certains disaient que leur peuple a été coupable de traîtrise et que le comportement des musulmans prouvait que leur religion était vraie. Ils ont abandonné leurs croyances d'antan pour embrasser l'islam. Amr bin Sa'd, un des chefs juifs, a condamné son peuple en ajoutant qu'ils étaient des traîtres et qu'ils avaient violé leur parole. Ils n'avaient qu'une seule alternative, devenir musulmans ou payer la jizya. Les juifs ont refusé les deux options, ajoutant que la mort était le meilleur choix. Sa'd a déclaré que « Je me lave les mains de vos actes » et il est sorti de la forteresse. Une unité de musulmans, avec à leur tête Mohammed bin Maslama, lui a demandé son identité lorsqu'il sortait de la forteresse. Ayant dévoilé son nom, Mohammed bin Maslama lui a dit « Pars en sécurité ». Ensuite, Mohammed bin Maslama a prié « Ô mon Dieu, fais que je ne divulgue pas les erreurs commises par les personnes bien intentionnées. » Cet homme regrettait ses actes et ceux commis par son peuple. Notre devoir moral doit également nous pousser à le pardonner. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas arrêté et je l'ai laissé partir, qu'Allah fasse que je puisse toujours accomplir pareille action pieuse. Lorsque le saint prophète a eu vent de l'incident, il n'a pas réprimandé Mohammed bin Maslama. Au contraire, il l'a félicité pour avoir laissé partir libre ce juif. On accuse à tort le saint prophète d'avoir commis des actes injustes envers les tribus juives, de les avoir persécutés ou tués leurs membres. Or, ces tribus étaient elles-mêmes responsables de leur perte, car elles ont refusé que le saint prophète juge leurs différends et ils ont demandé au chef d'une autre tribu qui était devenue musulmane de statuer sur leurs affaires, et d'ailleurs selon les règles de leur saint livre. En tout cas, toute accusation de persécution contre le saint prophète et contre ses compagnons sont infondées. Selon Alama bin Sa'd, lors des batailles de Qurayza et de Sawik, Abu Lubaba avait eu l'honneur de suppléer le saint prophète à Médine. Ensuite, lors de la conquête de la Mecque, Abu Lubaba se tenait aux côtés du saint prophète Mohammed bin Sa'd. Et il tenait entre ses mains l'étendard de la tribu Amr bin Auf des Ansar. Abu Lubaba a participé aux batailles aux côtés du saint prophète Mohammed bin Sa'd. Selon certaines personnes, Abu Lubaba est décédé lors du califat d'Ali radhiyallahu anhu. D'autres disent qu'il était décédé quelque temps après le décès du calife Osman. Selon un autre récit, il avait vécu jusqu'en l'an 50 de l'Hégire. Saïd bin Moussaïb déclare que Abu Lubaba a rapporté qu'un vendredi, le saint prophète Mohammed bin Sa'd a fait la supplication suivante pour qu'il pleuve. Allah masqina, Allah masqina, Allah masqina. C'est-à-dire, ô Allah, déverse sur nous la pluie, ô Allah, déverse sur nous la pluie, ô Allah, déverse sur nous la pluie. Abu Lubaba se mit debout et dit, ô messager d'Allah, les fruits abondent dans nos jardins. Les rapporteurs déclarent que le saint prophète a déclaré, ô Allah, fais pleuvoir sur nous la pluie, jusqu'à ce que Abu Lubaba, le torse nu, ne bouche les trous d'eau de son champ avec ses vêtements. L'on rapporte qu'après cette prière, les nuages ont recouvert le ciel et la pluie tomba. Ensuite, le saint prophète a dirigé la prière. Les Ansar dirent à Abu Lubaba, « Par Dieu, cette pluie ne s'arrêtera pas tant qu'en accord avec les dires du saint prophète, tu ne bloques pas les sorties d'eau de ton champ avec tes vêtements et le corps nu. » Abu Lubaba a suivi leur conseil et par la suite, la pluie a cessé de tomber. Un jour, Abu Lubaba a enveloppé son petit-fils, Abdurrahman bin Zayd, dans une feuille de dattier. Abdurrahman bin Zayd était aussi le neveu du calife Omar, et il l'a présenté au saint prophète Mohammed bin Sa'd. Le saint prophète a demandé au Abu Lubaba, « Que portes-tu là ?» Il a répondu, « Ô messager d'Allah, il s'agit de mon petit-fils. Je n'ai jamais vu un nouveau-né aussi faible. » Le saint prophète Mohammed bin Sa'd a pris le petit-fils et il a passé sa main sur sa tête et il a supplié Dieu. Grâce à la bénédiction de cette prière, lorsqu'Abdurrahman bin Zayd grandit, il était plus grand que tous les autres lorsqu'il s'alignait dans les rangs lors de la prière. Le calife Omar le maria avec sa fille Fatima, qui était née d'Oumé Kalthoum, la fille d'Ali et de Fatima. Anas bin Malik a déclaré, deux personnes habitaient très loin parmi les compagnons du saint prophète Mohammed bin Sassoubi. Il s'agit d'Abu Lubaba bin Abdul Munzir, dont la demeure se trouvait à Quba, et l'autre était Abu Abis bin Jabbar, qui habitait dans la tribu Banu Haritha. Ils venaient tous les deux quotidiennement faire la prière d'Asr avec le saint prophète Mohammed bin Sassoubi. Ainsi tels étaient les compagnons du saint prophète Mohammed bin Sassoubi. Qu'Allah exalte continuellement leur rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai deux prières funéraires. L'une sera en l'absence de la dépouille du défunt et l'autre sera en sa présence. La première prière funéraire est celle du mortier Qazi Shaban Ahmad Khan Saheb. Il habitait Surba Garden à Lahore, au Pakistan. Qazi Shaban Ahmad Khan était le fils de Qazi Mohammad Soloman. Il est tombé en martyr à l'âge de 47 ans le 25 juin 2018, atteint par des balles des ennemis de la Jamaat qui s'étaient introduits chez lui. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Selon les informations reçues, le soir du 25 juin, deux inconnus au visage cagoulé ont pénétré dans sa maison. Qazi Saheb se trouvait avec sa femme dans une pièce et ses filles se trouvaient dans une autre pièce. La femme de Qazi Saheb se trouvait dans la salle de bain. Lorsqu'elle est sortie, elle est tombée sur deux hommes au visage masqué. L'un des deux a placé son pistolet sur la tempe de la femme de Qazi Saheb et l'a emmenée dans une autre pièce où se trouvaient ses filles. Le deuxième assaillant est resté avec Qazi Saheb dans la chambre et il lui a tiré trois balles dans l'abdomen et cela a entraîné son décès sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait fait la baïra en 2001 avec sa femme et ses enfants par l'intermédiaire de son ami Mohamed Iqbal. Qazi Saheb habitait à Muzaffarabad, au Cachemire. En 2001, il s'est établi dans le quartier Suruba Garden à Lahore et peu de temps avant cela, il avait résidé à Township Lahore. Qazi Saheb dirigeait une école dédiée aux enfants handicapés. Il habitait au dernier étage de cette école. Ces jours-ci, il y a eu des travaux de construction et on était en train d'installer les volets. Et les deux assaillants s'étaient cachés là-bas et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont lancé l'attaque. Le défunt martyr était doué de nombreuses qualités. Après sa baïra, il s'était dévoilé comme une personne très sincère et pieuse. Il avait un grand amour pour le califat, un lien très étroit avec le califat. Il avait fait installer une antenne parabolique afin de suivre la MTA, afin d'être attaché au califat, afin que ses enfants et son épouse aussi soient attachés au califat. Il participait activement dans les sacrifices financiers. Il était secrétaire audio-vidéo dans la Jamaat locale et il réparait les antennes paraboliques des gens sans aucun paiement. Il s'était marié avec sa cousine et dans la famille, Qazi Saheb et son épouse et leurs enfants sont les seuls Ahmadis. Ils ont fait face à de grandes persécutions en raison de leur acceptation de l'Ahmadiyya. Quelques mois de cela, son beau-frère lui a rendu visite et lui a dit que vous êtes venu des Mizahis. Et il a vu l'antenne parabolique sur le toit de la maison. Il a voulu le détruire. Qazi Saheb l'en a empêché et il y a eu une querelle verbale. Ensuite, son beau-frère a dit à sa sœur que ton mariage est annulé, viens avec moi. Ton mari est devenu Mizahi. En entendant cela, l'épouse du défunt a répondu à son frère que je suis moi-même Ahmadi, je suis musulmane, et Qazi Saheb, mon époux, est également musulman, je n'irai nulle part. La femme du martyr a déclaré que son époux recevait des menaces de la part des ennemis, et il était très inquiet à ce propos. Et depuis quelque temps, il était silencieux, et il ne sortait pas de chez lui. Qazi Saheb avait dit à son épouse que si jamais il lui arrivait quelque chose, il fallait prévenir le président de la Jamaat. Suite à cet incident, son épouse a prévenu les responsables et elle a fait preuve d'une grande persévérance malgré le fait que les membres de sa famille étaient des non-Ahmadis et qu'ils étaient présents. L'épouse du martyr a dit que ce sont les Ahmadis qui vont diriger sa prière funéraire et qu'ils vont l'enterrer. Des amis et des proches non-Ahmadis de Qazi Saheb sont partis à la mosquée Bait Nour. Ils n'ont pas participé à la prière funéraire du défunt. L'épouse du défunt et ses filles ont accompagné le cortège funéraire jusqu'au cimetière. Le défunt laisse derrière lui son épouse, Shehnaz Shahban Sahiba, qui a 40 ans, et ses filles, Kiran, âgée de 19 ans, Sidra Shahban, âgée de 18 ans, et Malaika, âgée de 11 ans. Ces filles ont un handicap en raison du fait qu'elles ont souffert de la poliomyélite. Qu'Allah soit leur pourvoyeur et qu'il les préserve de toutes sortes d'inquiétudes et qu'il exalte le rang de Qazi Saheb, le défunt. La deuxième prière funéraire en présence de la dépouille sera celle de Amtul Hay Begum Saheb, fille de Seyyed Mohammed Khaw Saheb. Elle est décédée le 23 juin dernier à l'âge de 100 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a deux choses notables au sujet de son père, Seyyed Mohammed Khaw Saheb. La première est que bien qu'il n'était pas un compagnon du Messie promis, le deuxième calife avait autorisé qu'il soit enterré dans la partie du Bashti Maqbara de Qadian réservée aux compagnons. La deuxième est que dans le livre Ashab-e Ahmad, il est écrit qu'après une période de 42 ans, Seyyed Mohammed Khaw Saheb était le premier chanceux dont la prière funéraire a été dirigée au même endroit où avait été déposée la dépouille du Messie promis alayhi salam. Cheikh Yaqub Irfani l'avait annoncé à voix haute en se mettant debout sur une chaise ou sur un tabouret. Lors du mariage de la défunte Amtul Hay Saheba, bien que son père était présent, le deuxième calife, sur la demande de son père, a servi de wali, de référent légal. Le deuxième calife a dirigé le nikah et dans son sermon, il a déclaré « J'annonce le mariage de la benjamine de Seyyed Saheb. Elle se marie avec un membre de la famille de Khan Saheb, avec Mohammad Yunus Saheb, qui est peut-être son neveu. Pour ce mariage, Seyyed Saheb a donné préséance à la sincérité en raison de la distance entre les villes. Je lui disais de marier sa fille à Hyderabad. Mais il souhaitait que le mariage se fasse à Qadian ou au Punjab, afin qu'il puisse avoir une autre raison pour venir à Qadian. Mohammad Yunus Saheb habitait dans la région de Karnal, tout juste à côté de Delhi. Mais contrairement à Hyderabad, Karnal est plus proche de Qadian. La famille de Seyyed Saheb est sincère. Les relations entre les femmes de sa famille et celles de ma famille entre ses filles et les miennes entre ses fils et les miens sont telles qu'on dirait que nous appartenons à la même famille. Nous avons une relation très franche. Ses joies et ses tristesses sont les nôtres et nos joies et nos tristesses sont les siens. Le mariage de sa fille, Amtul Hay, a été conclu avec Mohammad Yunus, fils de Abdul Aziz de Karnar, pour une dot de 1000 roupies. Seyyed Saheb m'a désigné comme wali de la fille pour ce mariage. Amtul Hay Saheb était régulière dans ses prières et ses jeûnes. Elle s'adonnait aux supplications. Elle était obéissante envers le califat. Elle était très sincère et venait également me rendre visite en dépit de son âge avancé. Elle faisait preuve d'une grande sincérité. Elle était une femme très pieuse et elle était membre du clan d'Al-Wasiya. Elle laisse derrière elle deux filles et deux fils et de nombreux petits-fils et de petites-filles. La défunte était la mère de Mohamed Idris Hyderabadi qui habite en Allemagne. L'un de ses petits-fils habite ici. Il s'appelle Moussawar Saheb et il sert au sein de la Khuddamul Ahmadiyya. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette à ses descendants de perpétuer cette relation sincère avec le califat.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.